Cette semaine, dans l'Olivret, nous sommes en reportage au phare de l'Espiguette. Et d'ailleurs, là, vous devez l'entendre, il y a une ambiance sonore très particulière. Je suis en haut du phare, pas complètement en haut, mais presque en haut, avec Florine Esco. Bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est un phare qui est carré extérieurement, mais quand je suis entrée dedans, j'ai été étonnée parce que l'escalier est rond. Et j'ai même l'impression qu'il rétrécit. C'est comme un cylindre qui rétrécit au bout.
Exactement. Et à l'intérieur, donc, les phares sont toujours ronds. Parce que c'était des ouvrages qui étaient soumis à des conditions climatiques extrêmes. Des tempêtes, tempêtes de sable ou tempêtes en mer, donc des vents violents, la houle parfois. Donc il fallait que ces ouvrages soient extrêmement résistants. Et un cylindre est plus résistant qu'un cube ou qu'un carré. Donc forcément, l'intérieur des phares est toujours rond. L'extérieur est carré d'un point de vue coût et architecture, mais l'intérieur est rond.
Là, on est monté par un escalier en pierre, en excellent état d'ailleurs.
Oui, complètement. Il a été bien conservé aussi parce qu'il y avait un tapis tout le long de l'escalier. Et puis, ça permettait aussi aux gardiens de ne pas glisser dans l'escalier.
On a monté aussi une échelle de meunier et on arrive sur un petit plateau, très joli d'ailleurs, avec des couleurs de pierre contrastées, noir et blanc. Et ça fait comme un soleil au milieu. Il y aurait de la place de mettre un lit là, ici.
Exactement. Et donc, c'est ce qu'on appelle une chambre de veille. La chambre de veille, c'était là où le gardien dépliait un petit lit d'appoint et il pouvait, pendant sa garde de 6 heures, se reposer. Et pendant sa garde de 6 heures, il notait sur un cahier de bord, il notait tout ce qui se passait, à quelle heure il allumait le phare, à quelle heure il était relayé par l'autre gardien de phare, est-ce que la lanterne s'éteignait, est-ce qu'il y avait des tempêtes. Et donc dans cette chambre de veille, il y a un trou au plafond qui lui permettait de voir aussi, de se reposer tout en ayant un œil sur cette lentille. Si jamais le feu s'éteignait, hop, il remontait vite deux échelles de meunier pour aller rallumer la lentille.
Nous voici en haut du phare de l'Espiguette et j'aperçois la mer.
Exactement, on aperçoit la mer qui aujourd'hui est relativement calme puisque ça n'a pas été toujours le cas depuis qu'on a ouvert. On aperçoit aussi cette plage de l'Espiguette qui est aujourd'hui inondée parce qu'il y a eu un coup de mer. La mer est rentrée sur la plage et la barrière naturelle qui bloque cette mer, c'est quand même, ce sont les dunes. Et donc on voit leur efficacité là aujourd'hui.
On aperçoit le chemin depuis le stationnement, là où nous avons déposé la voiture. On aperçoit aussi le sémaphore avec un pylône.
Exactement, ce sont leurs radars, comme ils surveillent les côtes. Ensuite, on aperçoit 7 au fond, hein, le mont Saint-Clair. On a une très belle vue sur les montagnes de l'Hérault, sur Palavas, Carnon, la Grande Motte de ce côté, le pic Saint-Loup derrière, Port Camargue et le Gros du Roi. Et puis tout le massif dunaire avec les différentes strates de dunes. On aperçoit du haut du phare deux dunes boisées, donc des pins hein, tout simplement. Oui. Et ben on leur explique qu'à la deuxième rangée de pins, la mer, quand on a construit le phare, était ici. Donc tout ce qu'on a gagné en termes d'ensablement, c'est tout cet espace entre ces pins et aujourd'hui la mer. Donc c'est plus de 600 mètres de plage, plus de 600 mètres de sable qui est venu s'échouer sur cette plage de l'Espiguette.
Donc dans 10 ans, il y en aura encore plus.
Oui, mais non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le Rhône aujourd'hui nous apporte moins de sable qu'avant. Donc il y a beaucoup de barrages qui bloquent ce sable. Le sable qui arrive aujourd'hui sur les Espiguettes, c'est du sable qui à la fois arrive un petit peu du Rhône, mais aussi qui est arraché entre les Saintes-Maries-de-la-Mer et le bout de l'Espiguette. C'est cette mer qui va grignoter les plages et puis qui va venir déposer. Pourquoi je vous dis qu'on prend moins de sable qu'avant ? Tout simplement, on a un repère. Quand on a construit le phare, on pouvait gagner jusqu'à 9 mètres de sable par an. Aujourd'hui, on en gagne vraiment 2 mètres sur la pointe de l'Espiguette. Vraiment au bout de l'Espiguette. C'est un phénomène qui se ralentit. Je ne parle pas non plus de la montée de la mer, qui là sera aussi un autre phénomène. En tout cas, si on regarde des cartes anciennes, et puis aussi dans le musée, on s'est aperçu que notre trait de côte, il a toujours bougé, et qu'il bouge encore. Ça veut dire qu'on est sur un trait de côte qui est dynamique, que les Camarguais ont su s'adapter, et qu'à un certain moment, il faudra peut-être encore s'adapter. Vous êtes sur le plus gros massif dunaire du littoral méditerranéen français. C'est à cet endroit que vous pouvez observer les différentes formations dunaires. Et elles y sont toutes. C'est le seul endroit en France, en Méditerranée, où vous pouvez les observer. Je vous en montre quelques-unes. Donc là, au bord de la mer, vous avez la dune mobile. C'est-à-dire, ce sont des tout petits tas de sable qui ne sont pas fixés. Si vous y allez aujourd'hui, par exemple, on peut voir que le vent a dessiné sur ces dunes. Et ce sont des dunes qui bougent avec le vent.
Mais il y a de la végétation dessus.
Alors non, c'est vraiment la dune mobile,
c'est celle qui est vraiment au bord de la mer.
Ensuite, eh ben justement, ce sable va s'envoler avec le vent et va rencontrer des obstacles. Le premier obstacle qu'il va rencontrer, c'est l'obstacle de l'oïa. L'oïa, c'est la plante qui fait des touffes, hein, qui pousse sur les dunes. Et donc, cette oïa a un super pouvoir, c'est que c'est une plante qui ne se laisse jamais ensabler. Donc, à chaque fois que le sable va venir s'accumuler, elle va pousser. Le sable vient, elle pousse. Le sable vient, elle pousse. Et du coup, la dune commence à prendre de la hauteur. Et c'est là qu'elle commence à être efficace. On a ensuite une nappe d'eau douce qui a de la place sous cette dune. Et s'il y a de l'eau douce, eh ben, il y a forcément de la végétation qui va pouvoir pousser. Et donc, c'est toute la couleur grise des dunes qu'on aperçoit juste devant. Donc, la dune mobile qui bouge avec le vent, la dune blanche avec seulement l'oïa, la dune grise avec toutes les plantes différentes, et la dernière phase des dunes, c'est la dune à pins, donc tous ces pins qu'on voit devant nous, pins et genévriers. Donc à chaque fois que vous voyez des pinèdes en Camargue, vous êtes sûr que vous êtes sur une ancienne plage. Vous êtes les pieds dans le sable.
J'aperçois derrière nous, finalement, le phare lui-même, hein, donc la lentille. C'est plus petit que je pensais, je m'attendais à quelque chose d'immense.
Alors, ça dépend exactement des phares. Si vous allez visiter un jour le phare de Cordouan, la lentille est énorme. Ici, sur le phare de l'Espiguette, c'est une lentille qui est beaucoup plus petite. On n'a pas besoin d'une lentille énorme, parce que la lentille est efficace pour pouvoir signaler de loin. Donc il suffit simplement d'une ampoule. Alors nous, c'est une ampoule halogène. Et ensuite, la lentille fait tout son travail, hein, cette lentille à échelon qui est crantée en fait, qui permet d'avoir un faisceau lumineux qui est puissant. La lentille est extrêmement efficace.
Et elle a été changée, est-ce qu'elle se casse des fois ou c'est la même depuis l'origine ?
Alors, c'est pas la même depuis l'origine, puisqu'à la Seconde Guerre mondiale, elle avait été enlevée par les Allemands. Et du coup, c'est une autre lentille, mais c'est une lentille identique à celle d'origine.
Bah oui, parce que de toute façon, il y a une taille, non ?
Oui, exactement. Avec la puissance lumineuse, elles sont toutes différentes, puisqu'ils ont tous un code différent.
Et alors, comment elle tourne ?
Alors, elle tourne, elle est placée comme sur un système horloger, hein, de roues crantées. Donc, quand elle fonctionnait encore grâce au gardien, donc c'était un système de contrepoids. Et aujourd'hui, c'est un petit moteur qui permet de la faire tourner tranquillement.
Et comment elle sait à quelle heure elle doit se déclencher ?
Il y a un capteur de luminosité.
Mais si la luminosité est faible en journée, elle va se déclencher.
C'est rare. Vraiment très rare. Il faut vraiment que ce soit très très faible. Ensuite, du haut de ce phare, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a la vue sur la tour de Constance. Et donc, nous, on répète justement l'histoire de ces phares.
La mer est derrière nous. Là, il y a vraiment beaucoup de végétation.
Exactement. Et donc, du haut de ce phare, quand on jette un coup d'œil, donc, on voit un château d'eau,
oui.
On déplace notre regard vers la droite et on voit la forme de la tour de Constance. On aperçoit à droite les salins, hein, donc les camelles de sel qui sont blanches. Et ben, entre ces camelles de sel et le château d'eau, on aperçoit la plus haute tour des remparts, donc cette fameuse tour de Constance. Et donc là, on s'aperçoit vraiment qu'Aigues-Mortes s'est complètement éloigné de la mer.
Ah, ben c'est vrai,
et donc là, on explique justement tout ce qui s'est passé. On retrace l'histoire de ce territoire, c'est-à-dire l'ensablement, l'apparition du Gros du Roi, cette ville de pêcheurs, hein, qui s'est développée, qui ont eu besoin d'un deuxième phare, le phare du centre-ville, qui ensuite, ces marins pêcheurs passaient devant les Spiguettes, se sont ensablés, il y a eu des marins qui se sont noyés, puis la décision de construire ce phare de les Spiguettes, qui s'est ensuite éclairé le 1er janvier 1869, et le phare du centre-ville s'est éteint.
Qui a financé ces travaux ?
À l'époque, il y avait eu des financements de la France. Ouais,
c'est national.
Oui, c'est national.
Donc on découvre toute cette histoire des phares en France et puis l'histoire de la Camargue en venant ici au phare de l'Espiguette. C'est un lieu qui est ouvert depuis...
Depuis le 26 juin, on a ouvert au public et donc les premières visites ont eu lieu ce jour-là. Et depuis, nous sommes ouverts en saison tous les jours et puis hors saison, là en période hivernale, du mercredi au dimanche.
Est-ce que beaucoup de gens du coin sont venus ?
sur la période estivale, pas forcément. Ils ont attendu hors saison et je trouve que c'est un très bon choix parce que c'est un côté très agréable de visiter en hiver quand la luminosité est très claire. Hein, aujourd'hui, on voit 7, on voit très bien le pic Saint-Loup. On peut apercevoir de temps en temps le Mont Ventoux. Et puis, par temps très clair en hiver, et seulement en hiver, on voit le Canigou en face, donc les Pyrénées.
Donc, on invite nos auditeurs à venir. On peut venir en visite libre, du coup, on tourne autour. On peut venir avec une visite du musée uniquement et on peut prendre l'ensemble, musée et phare. Et le phare, on le visite par groupe de 10 maximum avec un guide conférencier. Merci beaucoup, Florinesco.
Merci à vous.